Les cachettes rejetèrent ceux que l'on cherchait. Ils furent immolés dans les maisons et frappés de l'épée sur les places publiques. La grâce fut refusée au sexe. Elle le fut aussi à l'âge. Les épouses périrent pour leurs maris, les jeunes filles moururent pour leurs pères, et l'enfant encore muet fut arraché aux entrailles maternelles. Bartolomeo di Neocastro, Chronique d'histoire de la Sicile, 1293.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
La Sicile, au centre de la Méditerranée, a toujours été une terre de passage et de domination. Les Grecs, les Puniques, les Romains, les Vandales, les Byzantins au cours du VIe siècle, les Arabes au IXe siècle, puis la conquête normande dans la seconde moitié du XIe siècle, ont fait passer sur la vieille île les diverses dominations. En 1194, la Sicile passe sous la tutelle de la dynastie allemande des Hohenstaufen, qui est également la dynastie du Saint-Empire romain germanique depuis l'empereur Frédéric II en 1220. Considérée comme un fief de l'Église, la Sicile est marquée par le conflit entre les gibelins, c'est-à-dire les partisans de l'empereur, et les guelfes, partisans de la papauté. À la mort de l'empereur Frédéric II en 1250, c'est son neveu, Corandin, qui devient roi de Sicile. Mais le fils bâtard du défunt empereur, Manfred, lui dispute le pouvoir. Profitant de la confusion politique et désireux de se débarrasser des Hohenstaufen en Sicile, le pape Urbain IV accorde l'île à Charles d'Anjou en 1264. Celui-ci est le frère cadet du roi de France Louis IX, le futur Saint-Louis. Il a déjà reçu en France le Maine et l'Anjou, d'où le nom d'Angevin qui sera donné à ses partisans. Prince guerrier, ambitieux, ayant une haute idée de sa maison et de son autorité, il conquiert le comté de Provence, se taille un fief en Piémont. Le successeur d'Urbain IV, Clément IV, confirme sa donation et Charles d'Anjou est couronné roi de Sicile à Rome le 6 janvier 1266. Peu de temps après le sacre, le roi Charles se rend dans le royaume de Naples où il bat Manfred près de Bénévent. Ce dernier ayant été tué pendant la bataille, Corandin, son demi-frère, pense l'heure de son retour sur la scène sicilienne arriver, mais ses troupes sont écrasées, il est fait prisonnier, et il est exécuté à Naples le 29 octobre 1268. L'acte heurte l'Europe, y compris le pape Clément IV, pourtant désireux d'en finir avec les Hohenstaufen. Cette exécution est considérée finalement comme la colère de Dieu, la vengeance divine. Mais personne n'est dupe, il s'agit d'un crime qui rompt avec les types chevaleresques. Désormais assuré de son pouvoir, Charles d'Anjou souhaite gouverner comme un capétien. Il est soucieux de préserver les droits de sa couronne envers les barons siciliens et les villes de Sicile. Son troubadour Pierre de Castelnau écrit, avec un esprit courtisan, que le roi Charles régnera sur la plus grande partie du monde. Elle lui appartient et elle est faite pour lui. Le roi place les siens dans les grandes charges de l'État et les fiefs siciliens, que les chroniques hostiles aux Angevins appellent les loups voraces dans la bergerie, sont accordés à ses proches. La mauvaise seigneurie, selon l'expression sévère du poète Dante, est en fait l'affirmation d'un État capétien efficace, administré avec compétence, mais qui impose une lourde fiscalité aux barons siciliens et aux villes, à un moment où l'économie de l'île se transforme, avec un développement d'une agriculture extensive, céréalière et d'élevages bovins et ovins. De plus, Palerme vit la période angevine comme celle d'une déchéance politique, le sacre royal n'ayant même pas été organisé dans la capitale sicilienne. Elle est privée des avantages d'un pouvoir royal présent, faisant vivre une économie de services et de cours que l'absence régulière du roi Charles ne permet pas. Les villes siciliennes ambitionnent pour leur part des privilèges, c'est-à-dire des libertés municipales, à l'image des villes du reste de la péninsule. Or, le pouvoir du roi Charles les leur refuse. D'autre part, celui-ci souhaite mener une grande politique méditerranéenne. En 1277, il se proclame roi de Jérusalem et il compte également élaborer des projets d'expédition contre Byzance afin de rétablir l'unité de la chrétienté divisée entre catholiques et orthodoxes. Cette activité politique ne manque pas d'inquiéter. Outre l'empereur de Byzance, Michel VIII, mais également le roi Pierre III d'Aragon, s'inquiète de ses ambitions un peu désordonnées du prince français. Le roi d'Aragon accueille des réfugiés siciliens dont il fait ses proches, tels Giovanni da Procaccia, devenu le chancelier d'Aragon. Par là même, le roi d'Aragon devient le champion des Gibelins face à un Charles d'Anjou qui passe pour être le tenant des Guelfes italiens. Un incident met le feu aux poudres le 30 mars 1282. Le chroniqueur Bartolomeo di Neocastro rapporte qu'un soldat angevin, du nom de Drouet, ayant fouillé de manière trop pressante une belle jeune fille, provoque une rixe au cours de laquelle il est tué à coups de couteau par le mari de la jeune femme. Au même moment, l'église toute proche du Saint-Esprit sonne la prière des Vêpres, carillon repris par tous les clochers de la ville. Cet incident est le début d'un soulèvement dans tout Palerme, au cri en dialecte sicilien de « Morano li Franceschi », mort aux Français. Pendant plus d'une journée, les Angevins vont être massacrés. Toute personne d'être soupçonnée d'être française ou proche des Français est tuée. On leur fait parler sicilien pour se rendre compte si véritablement ils sont des autochtones. Au total, on estime que 2000 personnes ont été tuées durant cette révolte. En un mois, en tout cas, l'ensemble de l'île est en rébellion. Même désireux de chasser une dynastie étrangère, comme les Angevins, les Siciliens ont besoin de s'appuyer sur une autre dynastie afin de parvenir à empêcher un retour des Français. Le 30 août 1282, Pierre III d'Aragon débarque à Trapani et il est proclamé roi de Sicile le 4 septembre. Dès lors, la question du royaume de Sicile devient une question internationale. Le roi de France, Philippe III, entame une campagne contre le souverain aragonais, mais la mort du roi de France à Perpignan en 1285 interrompt le projet. Quant à la Sicile elle-même, elle échappe définitivement à l'autorité de Charles d'Anjou à la suite d'une grande bataille navale au large de Naples. Découragé, Charles d'Anjou meurt le 7 janvier 1285 à Foggia, dans les Pouilles. Si les Aragonais parviennent à tenir un moment la Sicile, la puissance aragonaise est jugée trop limitée pour la gouverner dans la durée. En 1295, Jacques II d'Aragon cède la Sicile au Saint-Siège, la remettant ainsi à son suzerain traditionnel. Cette décision se heurte à une volonté des barons et notables siciliens qui souhaitent garder leur destin en main. Lors d'une réunion tenue au château d'Ursino en Catane, ils proclament souverain le frère de Jacques II, qui devient Frédéric III de Sicile, sacré à Palerme le 25 mars 1296. Les mauvaises relations existantes entre le pape et la couronne de France favorisent un règlement du conflit. par la paix de 1302, la branche angevine des Capétiens reconnaît la souveraineté de Frédéric III sur la Sicile. Les vêpres siciliennes ont marqué la conscience nationale sicilienne et italienne par la récupération de cet épisode au moment du Risorgimento, c'est-à-dire de l'unité italienne. L'historien Michele Amari, futur ministre de l'instruction publique dans l'Italie unifiée, écrit un impressionnant ouvrage en 1842 sur le sujet, faisant de cet épisode lointain le prélude du sentiment de liberté des Italiens. Le patriote génois, Goffredo Mamelli, dans son chant composé en 1847 et qui deviendra plus tard l'hymne officiel de la République italienne, reprend les vêpres siciliennes comme un épisode important de l'histoire de l'Italie. Enfin, Giuseppe Verdi présente son opéra « Les vêpres siciliennes » à Paris en 1855. Cette œuvre est classée parmi les opéras patriotiques du musicien. Ainsi, les vêpres siciliennes, au-delà du massacre que représenta l'événement, sont entrées dans le panthéon de la mémoire italienne, exemple parmi d'autres d'une réutilisation historique du passé.